Il est minuit et demi à Paris et Kigali, 22h30 en universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir. Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Au Burundi, les médias mis sous cloche par le pouvoir lors du double scrutin de jeudi dernier. Seuls les organes de presse ayant accepté de mutualiser leurs antennes en diffusant simultanément les mêmes contenus ont été autorisés à couvrir ces élections. En Côte d'Ivoire, à moins de 5 mois de la présidentielle, le PDCI entend afficher son unité derrière son leader. 3 jours après la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, le parti a rassemblé ses militants ce samedi matin à son siège de Cocody à Abidjan. Nous irons aussi au Libéria où l'ancien président de la Chambre des représentants a été placé en détention au siège de la police nationale et inculpé pour son rôle présumé dans le violent incendie qui a en partie ravagé le Congrès le 18 décembre dernier. Mais d'abord, cette annonce des autorités rwandaises à l'issue du sommet de la CAE ce samedi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Kigali claque la porte de l'organisation régionale. Le Rwanda dénonce le fait de n'avoir pas pu en assurer la présidence tournante et déclare déplorer, je cite, l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Rappelons que ce samedi, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale a prolongé d'une année supplémentaire le mandat du président de la Guinée équatoriale à la tête de l'organisation. Au Burundi, le contraste est saisissant. Il y a encore une dizaine d'années, le pays était cité en exemple pour sa presse libre, indépendante et dynamique dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Ainsi, à l'occasion des élections législatives et communales de la semaine dernière, tous les médias locaux, publics et privés, ont été muselés par le pouvoir. Seuls les organes de presse ayant accepté de travailler en mutualisant leurs antennes et en diffusant simultanément les mêmes contenus ont reçu une accréditation de la commission électorale. Mesure liberticide dénoncée par l'opposition. Explication Ezra Sandikman.
Ce sont 30 radios, 7 télévisions et 30 médias de la presse écrite ou en ligne qui se sont mis ensemble pour couvrir les élections de jeudi au Burundi. Et c'est une commission dirigée par un directeur général du ministère de la Communication qui a trié pour cela les présentateurs et les quelques 300 journalistes déployés sur le terrain pour couvrir le vote. Papier radio, reportage télé ou encore poste à publier sur les réseaux sociaux, chacun de ces journalistes devait soumettre sa production à une rédaction qui avait le droit de les censurer. Et il ne s'en est pas privé. Écoutez ce journaliste burundais, nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat.
Il y a des irrégularités qui ont été rapportées sur terrain. Il y a des journalistes indépendants qui avaient essayé de défendre l'équilibre de l'information, mais malheureusement, qui n'ont pas pu continuer parce que la rédaction centrale les bloquait directement. C'est-à-dire qu'on était sous contrôle, on signalait l'information, on est sur terrain, on a vu, on a constaté. Au niveau de la rédaction centrale, on bloquait.
Tout au long des opérations de vote, la synergie des médias du Burundi assurait que tout se passait bien, mais ajoute-t-il...
Ça ne correspond pas à ce qui a été vu sur terrain.
Bourrage d'urnes, vote multiple ou encore des électeurs forcés de voter pour les candidats du parti au pouvoir, tout cela a été passé sous silence, confirment d'autres journalistes burundais, qui se disent totalement muselés aujourd'hui.
Explication signée Ezra Sandikman. En Guinée équatoriale, deux ressortissants sud-africains condamnés à 12 ans de prison pour trafic de drogue, graciés par le président Teodoro Obiang Nguema à l'occasion de son 83e anniversaire. Les deux ingénieurs travaillaient sur une plateforme pétrolière. Ils avaient été arrêtés en février 2023 à Malabo alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer en Afrique du Sud. Leur emprisonnement avait suscité de nombreuses réactions en Afrique du Sud. Leurs familles, qui dénonçaient une vengeance, ont organisé des manifestations pour exiger leur libération. Leur arrestation faisait suite à la saisie dans la ville du Cap par la justice sud-africaine de plusieurs biens du vice-président équato-guinéen et fils aîné du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema.
Abidjan 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, 3 jours après la radiation de l'opposant Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti, le PDCI, tente toujours de réagir et de se mobiliser. À moins de 5 mois de la présidentielle, la formation politique a ainsi rassemblé ses militants ce matin à son siège de Cocody à Abidjan. Objectif, Benoît Almeras, afficher l'unité derrière le chef.
L'auditorium du vieux parti affiche complet à la tribune une dizaine de cadres et l'hymne du PDCI chanté à l'unisson. Le député Soumaïla Bredoumi orchestre la partition, tous derrière Tidjane Thiam.
Le PDCI RDA exprime tout son soutien au président Tidiane Thiam, qui reste son seul et unique candidat pour les élections présidentielles.
Et même si le président du parti est inéligible, aucune autre piste n'est envisagée pour la présidentielle.
Tout le monde peut être candidat, mais nous, on cherche quelqu'un pour gagner. Et pour gagner, c'est Thiam.
La commission électorale juge impossible de réviser la liste des électeurs avant le scrutin du 25 octobre. Le porte-parole répète tout de même les demandes de l'opposition.
Nous devons maintenir la pression pour obtenir des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Cela exige un audit de la liste électorale et la réinscription du président Tidiane Thiam de notre parti sur la liste électorale.
La veille, Tidiane Thiam a partagé une vidéo de lui à Jérusalem, preuve qu'il peut voyager hors d'Europe. Soumaïla Bredoumi promet, le chef reviendra bientôt. En attendant, le PDCI organise une marche nationale pour réclamer son retour sur la liste électorale. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Le PDCI annonce effectivement une marche le 11 juin à Abidjan. Au Libéria, l'ancien président de la Chambre des représentants derrière les barreaux, Jonathan Fonati Kofa, placé en détention au siège de la police nationale, a intitulé « Il est inculpé pour l'incendie de décembre dernier au Congrès ».
Des développements profondément préoccupants et qui rappellent un chapitre sombre de l'histoire de notre nation. C'est la réaction de plusieurs opposants, dont l'ancien président George Weah. Il demande la libération sans condition de Jonathan Fonati Kofa, ainsi que celle des autres députés mis en cause. Jonathan Fonati Kofa est membre de la formation politique de l'ancien chef d'État libérien. Son maintien au poste de speaker au Congrès a fait l'objet d'un bras de fer de plusieurs mois. Pour rappel, en octobre, près d'une cinquantaine d'élus votent sa destitution en l'accusant de corruption et se mettent à siéger de leur côté avec leur propre président de chambre, membre du parti de l'actuel président Joseph Boakai. Les tensions politiques montent. En décembre, la capitale Monrovia est le théâtre de manifestations de soutien à Jonathan Fonati Kofa et c'est dans ce contexte qu'un violent incendie endommage le Congrès le 18 décembre. En avril, la Cour suprême donne raison à Jonathan Fonati Kofa, invalide sa destitution, mais celui-ci choisit toutefois de démissionner mi-mai. Il est inculpé à présent d'incendie criminel, mise en danger d'autrui et tentative de meurtre. Selon le chef de la police, il existe des preuves solides contre lui, mais l'opposition parle de manœuvres politiques périlleuses pour la stabilité du pays.
Précision signée Amélie Tullet. La mission des Nations Unies en Libye a salué ce samedi la formation par le Conseil présidentiel de deux comités chargés de traiter les questions de sécurité et de droits humains après de récents affrontements meurtriers à Tripoli. Le mois dernier, pour rappel, la capitale a été le théâtre de plusieurs jours d'affrontements entre groupes armés rivaux. Affrontements qui ont fait au moins 8 morts selon l'ONU. Une semaine de deuil national en Zambie après la mort de l'ancien président Edgar Lungu. Le gouvernement précise que les drapeaux seraient mis en berne de dimanche à samedi prochain et que les événements de loisirs seraient suspendus pendant cette période. Décédé jeudi en Afrique du Sud, Edgar Lungu a dirigé la Zambie de janvier 2015 à août 2021. Ce samedi, jour de repos sur le tour cycliste du Cameroun. Après les trois premières étapes qui se sont déroulées dans le nord du pays, la quatrième se déroulera, elle, ce dimanche entre Yaoundé et Bafia sur une distance de 122 km. En attendant, le Camerounais Clovis Kamsong Abosolo, qui a remporté l'édition 2024 et qui est actuellement deuxième au classement général à 58 secondes de son compatriote Boris Tienche, fait le bilan des trois premières étapes de la compétition.
Le bilan est satisfaisant parce que jusqu'à présent, nous sommes toujours les deux premiers au classement général. Maillot jaune, maillot vert, comme jusqu'à présent, on a presque quatre maillots distinctifs et le travail d'équipe. Et je pense que nous sommes quittés du côté nord, on est au côté sud et on espère que ça va continuer à aller pour nous.
Vous avez remporté trois fois le Tour du Cameroun. Est-ce que vous pensez pouvoir remporter ce Tour pour la quatrième fois cette année?
L'objectif, c'est de remporter. C'est vrai que Boris, il est maillot jaune, je suis derrière lui. Il a un petit temps, je pourrais assumer mes responsabilités.
Est-ce que vous ne redoutez pas les équipes burkinabé et même ivoirienne?
Burkina, c'est pas les fins grimpeurs. Il y a la Côte d'Ivoire qui est ici, Siaka qui est le coureur qui est mieux classé aussi. Et c'est pas un coureur qu'on va beaucoup lui laisser. Ça, c'est encore une phase très difficile parce que le tour vraiment n'est pas encore joué.
Le Camerounais Clovis Kamsong Abosolo au micro RFI de Joël Wadem à Yaoundé où il est actuellement 23h40.